Bonjour Olivier Mantelli.
Bonjour David Abicaire.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Classique. Vous avez été nommé en octobre 2021 directeur général de l'établissement public de la Cité de la Musique Philharmonie de Paris. C'était juste après le Covid. Est-ce que le public est définitivement de retour à la Philharmonie ?
Oui, absolument. 90% de remplissage, y compris sur des concerts dits plus difficiles qui touchent des répertoires contemporains. Il y a une grande diversité, une grande variété de programmes. Très étonné aussi par la forte augmentation du mécénat, puisqu'on a fait plus 70% en 2 ans, c'est beaucoup. De très bons résultats sur la diversité des publics, on touche plus 58% de moins de 28 ans, donc c'est une belle performance qui est liée à tout le projet de la Philharmonie. Il y a une génération Philharmonie, c'est assez incroyable. Donc oui, les résultats sont bons.
Les résultats sont bons. Alors justement, vous m'avez donné les thèmes de l'interview à l'instant. Qu'est-ce qui remplit une salle? Qu'est-ce qui fait revenir le public? Qu'est-ce qui l'attire aujourd'hui? Sachant qu'il y a l'inflation, sachant qu'il y a une ambiance européenne qui est pas toujours propice au divertissement. Comment vous vous y prenez pour faire revenir les gens? Comment vous avez accompagné le mouvement?
La Philharmonie, c'est un projet transversal. C'est un arbre à 5 branches. Il y a un pôle éducation qui est très fort. C'est là où on donne le goût, on donne l'appétence, la culture, la diversité d'esthétique. C'est un orchestre qui, d'ailleurs, revient d'une tournée incroyable aux États-Unis. Ça faisait 22 ans qu'ils n'étaient pas partis avec Klaus Mäkelä. C'est aussi un musée, celui de la musique, Musée National de la Musique. 4 salles de concert. Une maison d'édition, une plateforme, une médiathèque, cette transversalité-là nous permet de toucher différents publics et de les accrocher. Le plus dur n'est pas de faire venir quelqu'un, c'est de le faire revenir. Et en cela, la Philharmonie est une réussite, je crois.
Alors, vous parlez du renouvellement des publics. Il y a un leitmotiv aujourd'hui, ou en tout cas un mot d'ordre qui revient dans toutes les institutions culturelles. Ça fait quasiment partie de leur cahier des charges et des objectifs que leur assigne l'État quand il les subventionne. C'est d'élargir les publics et de les renouveler. Qu'est-ce qui plaît aujourd'hui aux jeunes et qu'est-ce qui les amène vers la musique classique?
C'est d'ailleurs assez étonnant parce que nous, on a créé tout un programme de spectacles, musique à l'image et musique en scène, où on associe des chorégraphes, on associe des metteurs en scène, des vidéastes, parce que la musique est très visuelle aujourd'hui. C'est-à-dire que le contact du jeune à la musique passe par son téléphone souvent et il associe une image au son. Paradoxalement, si on prend par exemple les concerts de l'Orchestre de Paris, qui battent des records, là il n'y a pas de visuel, il n'y a que de la musique pure, et on sent dans la salle que les codes ont changé. Le public n'a plus les mêmes codes, il applaudit entre les mouvements, ce qui fait râler d'autres spectateurs, bien sûr, d'autres auditeurs.
On a le droit d'applaudir entre les mouvements.
On a tous les droits, ouais. Dès lors qu'on est dans un rapport d'écoute et d'attention. Mais bien sûr, il n'y a pas de dress code, il n'y a pas de comportement plus spécifique à avoir que d'autres, si ce n'est le respect des artistes et de la musique. Et donc là, il y a un vrai changement.
Quand vous dites que les jeunes cassent les codes et que le jeune public casse les codes, il va prendre plus de photos de l'orchestre, il va considérer cette assemblée qui joue de la musique, et parfois c'est des gens de l'âge du public qui sont dans l'orchestre, c'est des gens jeunes, il va les prendre en photo, il va les filmer, on s'approprie différemment la musique quand on a 20 ans aujourd'hui.
D'abord, faut dire qu'on a une salle exceptionnelle. C'est peut-être, d'après les orchestres internationaux qui viennent et les plus grands chefs, c'est la plus belle salle au monde. Il y a un rapport au volume, à l'acoustique, un rapport aux musiciens qui est exceptionnel, donc qui force une concentration, qui force une attention. Et ce qui se passe dans la salle de concert, finalement, qui ne se passe pas devant son écran. Devant son écran, on reçoit des ondes. Dans la salle, on reçoit des vibrations. Et toute la différence est là. Ces vibrations passent par le corps. Elles riment avec émotion, c'est des vibrations très sensibles, physiques. L'onde, on l'associe à l'onde de choc, hein. c'est autre chose. Et je crois que ce public a besoin de d'une rematérialisation, a besoin de rendez-vous, a besoin de liens physiques, sociaux. Et le concert, la salle de concert, le permet.
Olivier Mantéi, patron de la Philharmonie de Paris, on va parler un peu d'argent parce que les institutions culturelles fonctionnent avec de l'argent, c'est le nerf de la guerre si j'ose dire. L'inflation a impacté les équilibres financiers de la Philharmonie, comment vous maîtrisez ces équilibres? Est-ce que la billetterie suffit? Et quelle est la part du mécénat? Quelle est la part des fonds publics? Comment ça s'équilibre tout cela?
Alors ça c'est une question cruciale pour la Philharmonie, pour le monde de la culture. Je crois que derrière les rayons de soleil qui nous touchent tous, hein, je crois que les résultats de fréquentation sont très bons, en effet le mécénat augmente partout, il y a une vraie crise, une crise économique et une crise morale, je pense. Et il faut être très vigilant, très attentif à ce qui se passe. Par exemple, dans le cas de la Philharmonie, tous les concerts et spectacles, toutes les charges d'activité, concerts et spectacles, sont couvertes à 100% par les ressources propres. C'est-à-dire par les ressources que génèrent ces activités, ces charges. Il n'en demeure pas moins que le bâtiment, que les frais de fonctionnement...
Et de personnel,
en un an, ont pris 8 millions. L'activité, qui déjà se couvre elle-même intégralement, avec un programme éducatif ambitieux, avec un programme de musique contemporaine, de création. Comment l'activité va pouvoir couvrir les frais de fonctionnement, à moins qu'on lui demande de changer totalement d'aspect, de changer d'ADN, de changer de mission, pour générer de l'argent. Mais c'est plus le même métier, c'est plus le même projet.
J'entends une sorte d'appel au secours, je me trompe ou pas?
Non, il y a...
Un appel de détresse.
On a la chance, nous, de s'en sortir par une activité très dense qui n'a pas bougé, du fait qu'elle génère elle-même énormément de ressources. Les lieux de vie, les restaurants, cafés, ont multiplié par 3 leur fréquentation, donc c'est des recettes aussi complémentaires. Cet environnement-là est très positif, mais la subvention n'évolue pas, les frais fixes de chaque entreprise sont impactés, il peut en découler au niveau national à un moment donné, et on le voit déjà dans beaucoup d'établissements en région, une réduction d'activité, un changement de mission culturelle. Oui, il y a un danger, il faut être très vigilant. Et comme, en plus, il y a une désinhibition de la pensée extrême, d'un côté ou de l'autre, des deux extrêmes, et que chaque extrême nous emmène toujours un peu plus près du bord.
Et loin de la culture, c'est ça que vous sous-entendez.
Voilà, cette désinhibition-là favorise une ingérence beaucoup plus forte. Et attention, attention.
Quand vous parlez d'ingérence, c'est d'ingérence dans le programme, d'ingérence dans une attitude qui consisterait à dire on peut faire des coupes dans les institutions culturelles, on peut s'en passer. Vous avez le sentiment que Rachida Dati n'est pas attentive à ça?
Ah non, pas du tout.
Au contraire.
Au contraire, on a beaucoup discuté, elle est très attentive. Je parle quand je parle de désinhibition de la pensée, je parle aussi du public, je parle des collectivités, je parle des artistes eux-mêmes d'ailleurs, hein. Je pense que voilà, il y a une transgression, une diversion de la pensée qui peut à un moment donné concerner la liberté artistique aussi, qui peut amener certains à attendre de nos établissements, de nos programmes culturels, d'aller plus dans un sens ou dans l'autre, et s'éloigner de sa propre mission.
Revendication donc d'indépendance d'Olivier Mantéi, qui est l'invité de la matinale ce matin, directeur de la Philharmonie de Paris. Vous avez déclaré « Notre rôle a longtemps été d'accueillir du monde, et on continue, mais à notre tour, on doit aller vers le monde », et vous avez évoqué l'Orchestre de Paris qui est allé aux États-Unis. Vous dites qu'il n'était pas sorti depuis 22 ans ?
Aux États-Unis, ouais. Il sort chaque année, mais aux États-Unis, oui, on a fait un concert à Carnegie Hall historique, avec son jeune chef, une rockstar presque, Klaus Makela. C'est aussi des expositions qui voyagent. Alors bien sûr, la Philharmonie reçoit toutes les grandes phalanges, les grands artistes des 5 continents, mais elle produit aussi ses contenus. Ses contenus doivent voyager, ses artistes doivent voyager, ses formations musicales, son ingénierie aussi, Demos, le programme pour une intégration vraiment des jeunes issus de milieux où la culture n'est pas présente. Il y en a 50 orchestres répartis sur les territoires, c'est tous les programmes de la médiathèque, il y a un vrai contenu, il y a des ressources formidables que l'on diffuse sur tous les territoires. Et j'allais dire aller vers le monde de proximité, l'ancrage territorial. C'est-à-dire ce public qui est tout à côté, qui ne vient pas, qui regarde la Philharmonie, mais qui n'y va pas. C'est celui-ci qui nous intéresse aussi. Et là, on a créé une radio, la Balise, qui est une radio pilote aussi, qui est une manière de permettre aux uns et aux autres de s'approprier quelque chose qui les impressionne encore.
Combien vous êtes pour faire tout ça? J'ai oublié de vous poser la question.
Alors, si on compte les personnes qui sont rattachées à la Philharmonie, sans en être employées directement, mais qui en font partie, pour moi, je les vois quotidiennement, on est presque 900.
Ah oui, donc c'est une très grosse PME. Olivier Mantei, directeur de la Philharmonie de Paris, qu'est-ce que c'est qu'un bon artiste classique aujourd'hui? Comment on repère quelqu'un qui va exploser, qui a du talent? Parce que la concurrence est rude, elle est internationale. Comment fait-on pour se distinguer et faire partie de ceux qu'on invite, de ceux qui trouvent une place dans un orchestre?
Derrière votre question, je pourrais entendre est-ce que une personnalité plus glamour, est-ce que quelqu'un qui va bien gérer sa carrière, qui va être un bon promoteur de lui-même, aura-t-il plus de chance, quelle que soit sa qualité intrinsèque? En fait, c'est une question que l'on se pose à chaque fois que l'on voit des jeunes musiciens. Je suis au concert tous les soirs, la réponse est non. La preuve, c'est que, alors pas forcément tous les citer, mais prenez Trifonov par exemple, qui est le musicien, le pianiste qui a survolé toutes les saisons parisiennes et dans le monde par son talent, une sorte de supplément d'âme qui est presque inexplicable, mais qui est là, qui est perceptible de tous. Quel que soit son niveau de connaissance de la musique, il se passe quelque chose de différent. Ça ne tient pas du tout à sa manière de gérer sa carrière, ça ne tient pas du tout à son physique, ça ne tient pas du tout à tous ses aspects extérieurs. C'est un musicien absolument génial qui va, que ça soit en solo, en musique de chambre ou avec un orchestre, apporter une dimension supplémentaire. C'est ce supplément d'âme auquel nous sommes très attentifs. Pas toujours évident de le capter tout de suite.
Mais la magie s'impose d'elle-même,
oui,
c'est ça que vous me dites.
Oui, et puis elle est universelle. Je n'ai pas rencontré quelqu'un qui aura un avis vraiment contraire sur ce talent, par exemple.
Olivier Mantei, je vais vous poser une question très difficile. Je vais vous demander de choisir entre vos enfants et de m'indiquer trois événements d'ici 2025 à ne pas louper à la Philharmonie de Paris.
Non, mais ça, c'est impossible. 400, non, c'est 450 levées de rideau. Il y a les expositions. On transforme le musée. Hein, on va faire un nouveau parcours du musée de la musique. C'est une démarche très engageante pour nous, vraiment intéressante. Il y a les festivals. Il y a des offres, là. On a mis en vente des offres, c'est presque complet, avec R, avec Anony, ensuite Jazz à la Villette. Et puis tout de suite, on rentre dans la saison symphonique avec l'Orchestre de Paris, Klaus. Venez écouter l'Orchestre de Paris, Klaus Makela. Ou Esa-Pekka Salonen, ou ces grands chefs qui sont là. Il se passe quelque chose dans la salle d'incroyable. Et puis il y a les spectacles, on va faire une comédie musicale, façon un peu Broadway, mais sans décor. On va faire du spectacle sans décor, c'est un peu la force de cette salle. Et c'est l'année Boulez, avec des créations tout à fait étonnantes aussi. Voilà, mais que dire de plus si ce n'est vous lire les centaines de pages de la brochure. Prenez bien le temps, c'est un voyage et c'est magnifique.
On ira sur Philharmonie de Paris sur internet pour prendre connaissance de ce programme vaste. On va se quitter avec Daniil Trifonov. Tiens, quelques notes au piano par le virtuose Olivier Mantei. Merci d'être venu parler au micro de Radio Classique.
Merci à vous.
Thank you. Vous entendez les cloches de Rachmaninov. Olivier Mantei est déjà parti. Dans un instant, le rappel des titres avec Virginie Fulpin, suivi de la revue de presse d'Hervé Gattegno. Et le lundi, c'est Luc Ferry, c'est notre esprit libre. Radio Classique, il est 8h31.